Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Fournier, la CEO de Wellkiz. Salut Chloé.
Salut.
Bienvenue, merci beaucoup de prendre le temps de venir répondre à mes questions. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs un peu pour nous dire qui tu es et d'où tu viens.
Oui, tout à fait. Donc, je suis Chloé Fournier, je suis la fondatrice, tu l'as dit, de Wellkiz. Wellkiz, c'est une plateforme de location saisonnière avec service de conciergerie. Ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne au quotidien des milliers de propriétaires dans la gestion de leurs biens, que ce soit des appartements, des villas, des chalets, à travers 30 destinations en France. J'ai lancé la boîte en 2015. Ça fait maintenant presque 9 ans que Wellkiz existe. Et on adresse des typologies de biens assez haut de gamme où on va être capable de diffuser en fait via notre site de réservation directe qui s'appelle le Club Wellkiz, mais également via Airbnb, via Booking, HomeAway, Marriott, des plateformes plus niches où on va aller chercher des voyageurs un petit peu des quatre coins du monde.
Ok, génial. Bon, on va nécessairement revenir dessus. Mais dans un premier temps, je voudrais comprendre un peu comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dedans? Est-ce que c'était à l'issue de tes études? Est-ce que tu peux nous raconter un peu finalement ton commencement?
Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai un parcours assez classique, bac S, enfin, donc scientifique, école de, enfin prépa HEC, école de commerce. J'ai fait Euromed à Marseille, c'est Kedge Marseille aujourd'hui, avec un parcours à l'international assez prégnant après 2 ans d'études. Donc, j'ai été Singapour, Brésil, Londres aussi, plutôt en agence de pub.
Okay.
Donc moi, mon métier, durant ces années un peu de césure et avant de travailler, c'était vraiment chef de projet digital. Donc je travaillais au quotidien avec des développeurs et des personnes pour monter des sites internet en fait.
Okay.
Donc je suis rentrée de l'internet, enfin de mes études et puis de l'international en 2013. Je travaillais pendant 2 ans chez WPP, gros groupe de pub digital. Et un petit peu, tu vois, le sentiment que je suis rentrée dans une espèce de grosse machine où j'ai du mal à voir un petit peu les tenants et aboutissants de ce que je fais vraiment.
Ouais.
Un peu une sensation d'immobilisme aussi hyper forte qui correspond pas du tout à mon tempérament. Et donc, assez vite, en fait, je m'ennuie. Ah, c'est un peu triste, mais je m'ennuie dans ce que je fais et j'ai besoin aussi d'accéder peut-être à plus de responsabilités ou en tout cas de gravir en fait les échelons un petit peu plus vite dans un milieu qui est quand même un milieu assez spécifique ou assez politique, etc. Donc je fais fin 2013, début 2014, je fais un voyage à Londres où je me retrouve à déjeuner en fait avec une pote de pote qui me dit qui me raconte un peu ce qu'elle fait. Elle me dit moi j'étais en agence de com aussi, et en fait j'en avais marre. Donc là je me mets à gérer des appartements pour des expats à Londres. Et donc en fait si tu veux ils partent en déplacement et pendant qu'ils partent en déplacement moi je mets leur appart sur Airbnb et je gère tout de A à Z. Tu vois, la conversation se passe, le déjeuner se passe, et tout. Je dis, c'est extraordinaire. On était au tout début, on était au début d'Airbnb en France, etc. Enfin,
ouais.
C'était vraiment les prémices. Une vraie promesse à adresser, la logistique, un calvaire pour les gens qui mettent sur Airbnb, parce qu'il faut tout ranger, gérer le ménage, le linge, etc. Donc, je me dis, le créneau est hyper intéressant. Donc, je lui dis, est-ce que ça t'intéresserait de monter une antenne en France et tout? Elle dit, non, la France, trop galère, trop la réglementation, etc. Je dis, écoute, franchement, je vais essayer, parce que je trouve que le concept est vraiment intéressant.
Okay.
Au moins sur la partie prestation de service. Et donc, je commence en fait moi-même à adresser des potes de potes qui mettent leurs biens sur Airbnb et je leur propose, si tu veux, de gérer à la fois la création de l'annonce, la diffusion sur Airbnb uniquement et derrière gérer le ménage, etc. Donc au début, je vais me caler les ménages dans les appartements, c'est moi qui change les draps, etc. Je commence à avoir quelques clients, ça commence à tourner, je commence à prendre des auto-entrepreneurs qui travaillent avec moi, etc. Et puis, je sens la charge très lourde de ce métier, tu vois, à la fois commercialisation et logistique, qui est un petit peu, qui sont deux choses assez distinctes. Et je me dis, ok, si moi, moi, l'ambition que j'avais, c'était vraiment de monter, enfin, tu vois, de remêler du digital dans ce que je faisais, parce que là, c'est là où j'avais un peu de valeur ajoutée. La com, le marketing, c'était mon truc. Beaucoup moins les opérations. J'étais seule à l'époque et je m'étais dit, bon, OK, il va falloir se concentrer sur là où est ta valeur ajoutée, donc sur la partie marketplace, mise en relation entre des propriétaires qui louent sur Airbnb et des concierges. Et donc là, en fait, j'ai 3000 balles que j'ai récupérées de mon expérience précédente chez Rolex, où j'étais chef de projet digital. Et j'investis tout dans un POC, enfin dans un, je sais pas si on est un POC, enfin, en tout cas un premier site test,
ouais, okay.
Qui est en fait une marketplace où des concierges peuvent s'inscrire en disant voilà, je suis concierge, je suis auto-entrepreneur et je propose mes services de check-in, de check-out, de ménage, de gestion du linge de maison dans cette localité avec, okay. Avec les avis, tu as la possibilité d'avoir des avis, etc. Et en fait, le truc prend. C'est-à-dire okay. que je commence à avoir des propriétaires qui s'inscrivent sur la plateforme, de plus en plus de concierges qui me proposent leurs services et à Paris, puis progressivement partout en France.
Et tu le fais connaître comment ça c'est en...
Alors, je sais pas. Alors, à l'époque, je te dirais, j'avais fait un peu de... Bah, alors, de la com sur les réseaux sociaux, beaucoup, bouche à oreille. Et puis j'avais fait pas mal d'interviews.
Ouais.
Tu sais, j'étais passée sur BFM, on était vraiment Airbnb était assez nouveau, les gens s'interrogeaient en disant, mais c'est vraiment un levier pour gagner du fric qui est vraiment intéressant, on connaît pas trop comment ça fonctionne. Donc j'étais assez plébiscitée, tu vois, de par les médias, par BFM, etc. Enfin, j'avais réussi à créer un petit buzz là-dessus, ça avait pas mal fonctionné. Et j'avais aussi un concurrent à l'époque qui s'appelait BNB Sitter,
okay.
qui eux avaient levé pas mal de pognon et qui avait du coup commencé aussi la partie évangélisation du service, tu vois. Et donc on était concurrents à l'époque. Bon, eux ont déposé le bilan depuis en 2018 en fait, quand nous on a pivoté.
Okay.
Et donc voilà, en fait, je lance ce service. Ce qui se pose, c'est très vite, en fait, les gens disent, bah, en fait, une fois qu'on a trouvé un concierge ou notre concierge, pourquoi on passerait par la plateforme? Ouais. Parce que forcément, t'as un peu de bypass, etc. Donc, je commence à concevoir un petit peu les limites. On va assez loin dans cette partie prestation, c'est-à-dire que le concierge, il est capable de te faire du check-in, du check-out, du ménage, mais aussi pas mal d'autres prestations, de changer une ampoule, de te changer du papier toilette. Enfin, on va assez loin dans la prestation de service, jusque, je te dis, 2017, on se dit que si on veut être meilleur sur la création de valeur surtout, il faut qu'on aille chercher un peu plus haut en termes dans la chaîne de valeur, ouais. notamment parce qu'on se rend compte aussi qu'on a des sujets de qualité. C'est-à-dire que c'est les propriétaires qui gèrent leur annonce et on a des sujets, tu vois, de logistique et de coordination assez importants qui font que les propriétaires sont mécontents parce que le concierge avait été mal coordonné et du coup, il y a des ratés, etc. Donc, je me dis, en fait, si on veut être vraiment bon dans la gestion de la qualité de la prestation de service, en fait, il faut que ce soit nous qui commandons à la fois l'annonce et la coordination, si tu veux, de toute cette partie logistique, en fait, et que ce soit pas dissocié, parce que t'as des propriétaires qui sont à l'autre bout du monde et qui vont aller parler à un concierge qui est à Paris, donc c'est un peu lunaire, quoi. Donc voilà, en fait, fin 2017, je prends, en fait, pour faire cette activité de gestion, il faut une carte d'agent immobilier. Donc, les démarches pour devenir agent immobilier, c'est la loi Hoguet. Donc, je prends cette carte d'agent immobilier, je crée une société immobilière qui est aujourd'hui encore présente chez Welkies. Et on devient, en fait, gestionnaire et mandataire pour les propriétaires. Donc là, on crée un mandat de gestion, etc. On encaisse les loyers pour le compte des propriétaires et on s'occupe à la fois de la commercialisation, c'est-à-dire on dit à un propriétaire, bon, bah, je vais créer pour vous l'annonce, la diffuser sur différentes plateformes, être capable de coordonner tous les services de conciergerie sur place. On a ce réseau de concierges qui tournait quand même avec l'ancien Welkies.
Ouais.
Donc, j'ai les prémices un petit peu de mon réseau, de ce qu'on appelle City Manager aujourd'hui. Ça, je ne l'ai pas expliqué en préambule, mais tu vois, on a un réseau, on a développé comme un réseau d'agences, tu vois, d'agences de d'agences de location saisonnière, et alors physique ou pas physique, mais en tout cas on a des référents sur place qu'on appelle les city managers et qui aujourd'hui sont le cœur du réseau Welkies, c'est-à-dire qu'ils ont en gestion des parcs entiers de plusieurs centaines de biens Welkies sur place dans les villes, tu vois.
Ok. Mais ils sont pas exclusifs.
Ils ont un contrat de partenaire qui est assez lourd,
ouais.
Mais ils sont pas exclusifs Welkies pour éviter les requalifications en contrat. Bon, ça, tu pourras l'enlever.
Et pour avoir ta carte, t'as dû suivre une formation. Comment ça s'est passé?
Oui. Alors, mon niveau d'études me permettait d'avoir une carte d'agent immobilier.
D'accord.
J'ai suivi une formation.
Okay.
Et je renouvelle tous les 3 ans.
Ah ouais, ok, ouais. D'accord.
Qui est une carte d'agent immobilier et qui est soumis à la loi Allure, tu sais.
Ouais.
Voilà.
Ça a duré combien de temps la formation? Je me souviens un peu.
C'est assez rapide. C'est okay. assez rapide. C'était une formation de, je sais pas, 15 jours, un truc comme ça. Après, tu peux les faire en ligne. Enfin, ouais. Ça va assez vite. Hein.
D'accord.
Ça va assez vite. Donc voilà, donc en fait, le tournant s'est fait là. Pendant tout ce temps, j'étais seule. J'ai toujours été seule aux commandes. J'ai eu mon premier actionnaire qui est encore actionnaire aujourd'hui, Pascal Béran, qui est rentré en 2016. Deuxième actionnaire, Jean-Marc Rangès, qui est rentré en 2017, qui sont toujours mes actionnaires aujourd'hui, donc qui suivent l'aventure Welkies, qui avait toujours, tu vois, qui, 2017, avait aussi été assez visionnaire, en tout cas dans le fait de dire... Bah, à mon avis, il faut remonter beaucoup plus sur la gestion. Il faut qu'on quitte cette partie prestation.
Bah, surtout que Airbnb l'a intégré maintenant. Ils ont leur propre plateforme.
Exactement, de côte.
De côte, exactement.
Tout à fait. Donc ça, c'était première étape, nécessité de remonter sur la gestion. Et puis deuxième étape, nécessité de monter vers le haut de gamme. Donc ça s'est fait en 2 temps. Et j'ai fait rentrer une personne, Jean-Robert, qui est mon associé aujourd'hui, qui est rentré en mars 2018.
D'accord.
Mars 2019, et qui là, lui, est arrivé pour m'aider à structurer le réseau de partenaires. Et donc, aujourd'hui, on a un 6 000 réseau de franchisés, en fait.
Ok. Et donc, vous avez des salariés en propre ou...
Tout à fait. Ouais, on a une équipe de 20 salariés au siège à Paris, sur des fonctions plutôt support, en fait. Un peu comme une centrale, tu vois, de franchise. C'est-à-dire, on a la fonction marketing, commercial, finance administratif, le support logistique, pour apporter du support logistique aux city managers en région. Et après, on a même maintenant régionalisé beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, je suis basée à Bordeaux, et pour justement gérer ou en tout cas développer la région sud-ouest. Donc, on a une grosse activité sur la région qui va de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à l'île de Ré, en gros, en passant par toutes les côtes, les Landes, le bassin d'Arcachon, l'île de Ré, l'île de Léron. On a la directrice de Le Camp Management qui est basée à Marseille, et elle travaille beaucoup avec les city managers qui sont dans le sud-est.
Ouais.
Donc, ça va de Montpellier jusqu'à Nice, en passant par Toulon, Golfe de Saint-Tropez, Bandol. On a maintenant des salariés en montagne aussi, parce que on s'est rendu compte que la montagne est super, super terrain de jeu, parce que pas de législation. Et dans notre métier, c'est très vieillissant, en fait. C'est du samedi. On avait de quoi disrupter pas mal.
Ouais.
Et puis évidemment les villes.
La législation, c'est ces fameux 120 jours dans les grandes villes au-delà desquelles on n'a pas le droit de.
Alors ça, c'est pour la résidence principale uniquement. C'est-à-dire une résidence principale, par définition, c'est une résidence dans laquelle tu dois. T'es censé y vivre au moins 8 mois dans l'année. Donc 120 jours autorisés de location. Pour les résidences secondaires, c'est interdit, à part être capable de compenser. C'est-à-dire si tu retires un bien du marché locatif pour en faire la location saisonnière, tu dois compenser par la même superficie dans un périmètre sensiblement identique que tu vas mettre en location longue durée.
Ok.
Et donc ça, aujourd'hui c'est assez compliqué.
Mais c'est interdit de mettre sa résidence secondaire en location.
Bah, dans les villes de plus d'un 100 000 habitants, oui.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Interdit récemment dans le Pays Basque aussi. Okay. Ça devient interdit dans les 24 communes du Pays Basque. Donc oui, ça se durcit considérablement. Le créneau super intéressant encore à l'heure actuelle, c'est d'avoir la commercialité. Donc c'est le local commercial. Donc c'est des soit d'anciens bureaux qui sont transformés en appartements, soit des rez-de-chaussée, boutiques qui sont transformées en appartements. Et ça, comme tu as la commercialité et le droit de commercialiser le bien en tant que comme si c'était un hôtel en fait. Là, tu n'as pas ce sujet-là.
Okay.
Tu as un simple sujet de changement d'usage, changement de destination et c'est jouable.
Mais du coup, que pour des prestations court terme, j'imagine.
Et là, alors tu peux faire du... en fait, l'intérêt, c'est que si tu as la commercialité, tu outrepasses les règles. Donc, tu fais du 305 jours par an sur Airbnb. Et là, en termes de rentabilité, c'est colossal, quoi. C'est du 11% net. C'est vraiment intéressant.
Et ce pivot-là, quand vous l'amorcez, vous avez des difficultés à faire grossir votre parc ou c'est plutôt dans la continuité, vous arrivez à capitaliser sur cette notoriété pour...
Ouais, on commence, on a 10 biens, quoi.
Ouais.
Et puis, on acquiert à la fin de la première année 300 biens. Quand Jean-Robert arrive 2019, on a 303 biens en portefeuille. Aujourd'hui, on en a 1400. Donc après, en fait, la croissance s'est faite assez rapidement. On a quand même eu le Covid entre-temps. Ça nous a bien arrêtés. Mais le fait d'avoir eu des partenaires city managers et non pas des salariés a fait qu'on s'en est sorti aussi en termes de... Enfin, on s'en est sorti.
Ouais.
Parce qu'on n'avait pas une structure trop lourde à financer.
Parce que quand tu dis les partenaires, c'est donc des prestataires sur place qui sont en mesure de délivrer les prestations de services, mais qui n'ont pas du coup par définition les biens en gestion. C'est vous qui leur amenez les biens à gérer, c'est ça?
Exactement. En fait, nous, on a la propriété du mandat toujours, et ces partenaires sont des gens qui ont leur propre société de conciergerie et qui ont leurs équipes de ménage, de check-in, de maintenance, etc. Et à qui on sous-traite en fait toute la partie conciergerie.
Mais sur le plan acquisition, finalement, de biens, vous êtes en concurrence avec toutes les conciergeries.
Oui.
Si ce n'est que vous êtes niché dans des prestations.
Oui, alors on est niché et on commence à être connu. Donc gens sont aussi. On voit que les propriétaires sont assez rassurés de confier leurs biens à un réseau national parce que c'est un marché qui est très, très segmenté. Donc, tu vas voir la conciergerie de Michelin sur place. Mais en fait, si Michelin part, ton truc est dead. Donc, c'est aussi être capable d'avoir professionnalisé en fait, tout ce segment-là, enfin ce segment de marché la conciergerie qui n'a pas encore de code NAF. Donc, on a un gros enjeu là-dessus et qui est d'ailleurs un des sujets ultra prégnants aujourd'hui. On subit toutes les législations consécutives qui arrivent un peu au compte-gouttes selon les régions, un peu avec le sentiment que les gens qui font ces lois-là n'ont pas conscience qu'en fait, il y a toute une filière qui s'est montée sur ce métier-là. De la conciergerie qui fait travailler des femmes de ménage, qui fait travailler des gens qui font du check-in, qui font travailler des gens de la maintenance et qui, indirectement, font travailler des commerçants, en fait. Donc, c'est des enjeux en termes de PIB et puis de retombées locales qui sont vraiment, vraiment importantes.
Ouais. Et j'imagine que votre objectif à terme, c'est d'être finalement un concurrent de Airbnb, de générer votre propre acquisition ou... Forcément, pendant pas mal de temps, vous avez travaillé directement avec ces plateformes-là parce que c'était un vecteur énorme d'acquisition de clients.
Mais je pense qu'on continuera à travailler avec elles parce que tu vois, les stats montrent que sur les plateformes, les plateformes et puis en général les autres. Enfin, tu vois, si tu compares ça à un groupe hôtelier, en fait, t'as ton site direct qui peut représenter, je pense, jusqu'à 40% de ton activité. Et puis pour aller capter aussi une clientèle qui n'est pas celle que tu capteras habituellement, d'aller diffuser sur des plateformes comme Airbnb et Booking fait toujours sens en fait. Le must du must, c'est d'avoir 100% d'acquisition en direct. Mais en fait, ce que tu veux aujourd'hui, c'est la différence entre donner quelque part tes commissions Airbnb et Booking ou alors tu les donnes à Google, quoi. Mais
ouais, c'est sûr, pour l'acquisition, ça reste pas bon.
Pour l'acquisition, tu vois, c'est un peu... le seul avantage d'aller travailler beaucoup plus le direct, c'est qu'on travaille notre marque. Et que quand la marque, elle devient forte, Tu arrives à capter beaucoup. Enfin, donc c'est plus intéressant parce que toi, tu valorises ta marque en tant qu'entrepreneur.
Ouais.
Mais je veux dire, en tout cas, le sujet du financement de l'acquisition, qu'il soit fait par Airbnb, Booking ou Google, bon, c'est un peu la même chose, quoi.
Ouais, non, mais bien sûr, à quelques détails près. Mais oui, j'imagine que effectivement, les coûts d'acquisition peuvent être rapidement élevés, surtout que ça augmente de plus en plus. Donc,
bah oui, et puis qu'on est, en tout cas, sur le volet de la partie voyageur, tu vois, de l'acquisition voyageur, on est vraiment face à des très gros. Donc ça monte très vite. Et pour te, je sais pas si ça c'est, vous êtes plus ou moins au courant, mais et c'est technique, mais Airbnb et Booking, à chaque fois que tu vas diffuser une annonce, que ce soit un particulier ou un pro, tu vas avoir une commission sur tes loyers et ton ménage qui s'applique, qui est comprise entre 15 et 17%. Donc c'est colossal, tu vois. Sur nous, les volumes qu'on fait, c'est des gros gros montants.
Ouais.
Mais qui sont équivalents à ce que pourrait payer une marque, tu vois, qui veut se développer en direct sur Google pour aller chercher des très gros volumes de réservations.
Ouais, bien sûr.
Mais en tout cas, oui, notre enjeu aujourd'hui, nous, c'est d'aller travailler l'acquisition voyageur, c'est-à-dire d'aller chercher plus de voyageurs en direct, déjà de capter, tu vois, les voyageurs qui séjournent chez nous aujourd'hui, d'arriver à les fidéliser, et puis d'en capter de nouveau,
ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place justement pour cette fidélisation? Est-ce qu'il y a un système de récompenses, de services en plus, un peu comme des cartes premium, etc.
Alors on est encore aux prémices de ça. Nous, ce qu'on cherche à développer, c'est vraiment du service aux voyageurs. Tu vois, on aille au-delà de la partie hébergement seul, et de dire, ben, en fait, quand tu arrives chez Welkies, quand tu réserves un logement Welkies, ou un appartement Welkies, une villa Welkies, tu peux bénéficier d'un panel de services à disposition. Et ça va on vient te chercher à l'aéroport, jusqu'à te proposer un chef à domicile, jusqu'à être capable de t'emmener faire un tour en Segway ou une sortie en catamaran dans les calanques, etc. D'être assez personnalisé sur le service qu'on va apporter durant le séjour.
Okay.
Et ça, c'est aussi très en ligne avec ce que nous demandent les plateformes qui, elles, sont focus, et nous, on l'est aussi, sur la qualité des séjours, en fait. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que tes voyageurs vivent un moment mémorable.
Ouais, bien sûr. Je comprends totalement. Donc, tu parlais du Covid. J'imagine que forcément, ça a marqué un peu un arrêt, surtout vu l'activité, il n'y avait pas d'autre choix. Comment s'est passé le redémarrage? J'imagine que vous avez forcément senti une baisse du flux des transactions.
Mais mars, tu vois, le Covid, c'est mars 2020. Donc là, 17 mars, tout s'arrête. Moi, en plus, en parallèle de ça, deuxième grossesse, tu vois, mes deuxième enfant qui arrive, donc beaucoup, beaucoup de changements, et ce Covid où, en fait, ce qui était le plus difficile, c'est de ne pas voir la fin du, tu vois, de pas savoir, en fait. Donc, on a mis tout le monde en activité partielle à 50% parce qu'on avait quand même de l'activité qui continuait à affluer de par des personnes, en fait, qui voyageaient sur de la moyenne durée. Ça, j'en ai assez peu parlé, mais je pourrais en parler un petit peu après sur notre offre de moyenne durée. Mais des gens qui, en fait, se disaient, ben, je vais y rester 15 jours en attendant de voir, et en fait, qui sont restés beaucoup plus, tu vois. Donc, besoin d'avoir quand même un service client qui était assez prégnant pour rassurer les propriétaires aussi, qui, eux, voyaient leurs biens qui étaient vides, tu vois. Et on a envoyé, tous nos services, donc toutes les personnes qui travaillaient avec nous, ont été envoyées en formation.
Okay.
Donc, on les a fait monter en compétences pendant cette période, et ça, c'était super parce que ils sont revenus, enfin, du coup, on a eu zéro turnover. Les gens sont restés pendant toute la période du Covid, et puis même après, tu vois, et se sont formés sur des sujets où ils sentaient qu'ils étaient encore pas nickel, ou ils avaient besoin de monter en compétence au sein de Welkies, tu vois, sur des sujets, notamment communication. Il y avait des gens qui se sont perfectionnés en anglais, d'autres en PNL. Enfin, ça a été très varié, mais l'objectif, c'était vraiment que les gens dépérissent pas, tu vois. Soit capable de passer cette période, parce qu'on avait quand même un peu l'intime conviction qu'une fois que ce serait terminé, mais ça allait reprendre très très fort, en fait. Et donc, on avait besoin de garder notre équipe pour que au retour, on soit tous plus forts et capables d'affronter un peu le sur-régime qui allait se produire, quoi.
Et ça s'est vérifié?
Et ça s'est vérifié, ouais. Alors jusqu'en 2021, tu vois, ça a été un petit peu difficile. Janvier 2021, là derrière, on se prend la crise, enfin la guerre en Ukraine. Donc, ouais. On se coupe des clientèles russes et on s'était déjà coupé des clientèles chinoises. Mais ça repart, tu vois, courant mars, ça repart. Et les étés qui ont suivi, enfin surtout 2021, étaient un été monstrueux.
Ok.
Parce que libération un petit peu les vacances, tu vois, en tout cas le fait de partir en vacances était un synonyme un peu de liberté.
Mmh.
Et donc les gens avaient mis le paquet sur les vacances d'été, donc ça c'était une grosse activité pour nous. Ouais.
Ouais. C'est quoi les enjeux pour demain de Wildkeez, ce sur quoi vous voulez travailler, vous développer
Ouais, bien sûr. On a fait un gros travail, tu vois, sur notre réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos city managers sont des gens qui sont avec nous depuis longtemps, qu'on fidélise, qu'on essaie d'accompagner au maximum dans leur quotidien, avec des outils, avec de l'accompagnement via la direction du réseau notamment. Et demain, l'objectif, c'est de continuer à faire grandir ces gens. Grandir, ça veut dire accompagner dans la formation, ça veut dire aider sur le développement de la marque en local. Certains partenaires se développent hyper hyper vite, hyper bien. On leur met à disposition des agences physiques. On a le sentiment que plus on monte en gamme, plus on a besoin d'asseoir, tu vois, la marque localement avec une agence qui a un super impact sur la notoriété d'une part et puis sur le fait que les propriétaires vont confier leurs biens à Wildkeez. Donc tu vas donc les aider à faire grandir leur business en local. Donc ça c'est le premier point. Tu vois, on n'a pas forcément vocation à ouvrir 100 000 destinations, c'est pas l'idée. On a déjà 30 destinations qui sont les 30 destinations les plus prisées en France. L'idée c'est vraiment de s'asseoir et d'asseoir notre notoriété dans ces destinations-là. Au travers d'agences, au travers de commerciaux, parfois qu'on implante même sur place pour aller chercher plus de mandats. Le deuxième enjeu, c'est la montagne. J'en ai parlé un petit peu en préambule, mais qui est un super territoire de jeu et de développement. Vraiment intéressant, avec la possibilité, difficile à pénétrer, mais une fois qu'on est installé, vraiment intéressant parce que intéressant d'aller disrupter le samedi, intéressant d'aller chercher des typologies aussi plus haut de gamme,
ouais.
Tu vois, des chalets, des beaux appartements, etc. Et une législation qui est encore très, très, très faible, enfin, qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a ces politiques de lit froid, je ne sais pas si ça vous parle, mais de dire qu'en fait, les stations de ski, elles sont anéanties par la politique des lits froids. C'est-à-dire que quand les propriétaires n'y sont pas, ils n'ont pas de service, tu vois, il y a encore trop peu de services pour ouvrir les lits. On sait ce qu'ils appellent les lits, mais en tout cas, ouvrir les biens pour les louer toute l'année. Donc, on est assez bienvenus, tu vois, dans les communes comme Megève, où on a une agence, Chamonix, Vallée de Chamonix, l'Alpe d'Huez, etc. Des destinations où ils sont preneurs, tu vois, de ces services-là qui font qu'on va louer. Et puis, on va louer toute l'année. Donc, à partir du moment où tu dis à une commune qui vit du tourisme sur une petite période dans l'année, tu leur dis, en fait, nous, on a une solution, on va vous ouvrir les calendriers, on va ouvrir les vannes, entre guillemets, on va faire venir des gens un petit peu toute l'année. En fait, les mecs, c'est aussi hyper intéressant pour eux en termes de retombées locales, parce que ça fait travailler, tu vois, toutes les personnes localement, quoi.
Comment vous pouvez assurer cette promesse? Parce que finalement, si les personnes voulaient venir, bon, effectivement, il y a des petites difficultés du samedi au samedi, etc. Mm-hmm. Mais quelle est votre plus-value? Est-ce que c'est parce que de par le pipe de clients que vous pouvez avoir, vous allez pouvoir les rediriger vers ces offres-là qu'ils n'auraient pas forcément pensé?
Oui, je pense que, tu vois, en montagne particulièrement, on travaille beaucoup avec Booking.com, qui nous envoie des clients, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens. Britanniques, etc., qui en fait voyagent toute l'année sur ces destinations-là, à la fois l'hiver et l'été. Tu vois, Chamonix, par exemple, c'est une destination qui vit toute l'année. C'est-à-dire à la fois l'hiver, mais aussi l'été, avec du trail, les randonnées. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui fonctionnent toute l'année. Et donc, on va aussi, en termes de stratégie tarifaire, j'en ai pas parlé en préambule, mais ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'annonce. on va la diffuser, puis on va la commercialiser. La commercialisation, on a tout ce qu'on appelle une stratégie tarifaire, donc avec du yield, comme ce qu'on peut connaître en hôtellerie, tu vois, le bon prix au bon moment. Et donc, on applique aussi des stratégies tarifaires assez ciblées dans ces zones-là pour dire, bah, en fait, plutôt que en basse saison, plutôt que vous cantonnez au samedi, on pourrait peut-être essayer d'avoir du 2 nuitées minimum. Mmh. Et là, vous allez remplir beaucoup plus aisément avec des clientèles européennes ou internationales, mais aussi avec des Français qui veulent faire du city break, du télétravail, etc.
Ouais.
Donc, être aussi assez agile, en fait, sur ces modes de location qui sont un petit peu différents de ce que fait l'agence traditionnelle sur place. Tu vas chercher tes draps et ta clé à l'agence immobilière, tu vois. Donc, c'est aller disrupter ce modèle-là est plutôt intéressant.
Ouais. Pour les taux de remplissement, pour l'instant, vous basez sur ce que vont pouvoir vous générer vos partenaires ou vous avez développé vous-même vos propres un peu...
Aux outils, pour
définir les bonnes stratégies.
Ouais, tout à fait. On travaille, on a les données marché.
Ouais.
Tu vois, de ce qui se fait avec des outils comme RDNA, notamment, qui sont des outils un peu puissants, qui vont te glaner de la donnée marché pour pouvoir comparer ton bien avec celui de la personne autour. Puis maintenant, on a nos données historiques aussi, qui nous permettent de faire du prédictif et de dire, votre bien rentre dans cette catégorie-là, voilà ce qu'on a fait en année N-1, voilà ce qu'on peut estimer, en tout cas, avec en pessimiste, optimiste, tu vois, et être capable de projeter le client dans ce qu'on est capable de faire.
Et avec toutes les charges que vous pouvez avoir aussi bien avec vos partenaires que les salariés, etc., vous avez j'imagine qu'il y a un volume quand même minimum de transactions à faire pour être rentable. Il est difficile à atteindre ou?
On a forcément un effet volume, tu vois, jusqu'à présent, qu'on rattrape avec un effet prix. C'est-à-dire que nous, c'est la stratégie de Wellkeys qui se démarque un petit peu de celle des concurrents qui vont plus avoir tendance à faire du mainstream. Tu vois, depuis 2019, on a amorcé vraiment une montée en gamme dans les mandats de gestion que l'on prend. Et on va aller chercher des biens plus quali, qui se louent plus cher.
Mmh.
Et donc forcément, on réduit le seuil de renta, en fait, avec le nombre de biens qu'on va gérer, parce qu'on vend des séjours plus chers sur des biens qui sont aussi avec ce qu'on appelle des ADR, tu vois, Average Daily Rate, plus important.
Ouais. Et vous avez diversifié vos sources de revenus avec, par exemple, de l'affiliation sur des prestations complémentaires qui vont être proposées. Par exemple, justement, tu me parlais du tour en 7 bouées où le but, c'est juste dans un premier temps avoir des partenariats pour proposer des choses ou même avec eux, vous allez négocier des deals parce que vous leur amenez quand même des clients.
On a un système d'affiliation, c'est-à-dire que on sélectionne par destination un pool de prestataires, tu vois, qui vont être formés aussi à nos demandes. On a, tu vois, on travaille avec un presta qui nous permet de rentrer tes dispos, etc. Enfin, c'est toute la solution technique, on l'a de notre côté. On onboard le prestataire dessus et on tire le trait à la fin de l'année, tu vois. Mais on est quand même plus dans une démarche, en tout cas, en ce moment, d'aller générer de la satisfaction pour le voyageur, que faire du side business là-dessus. C'est évidemment ce qu'on va faire.
Bien sûr. Même si c'est toujours délicat quand on vend une expérience utilisateur qui est propre à notre marque, mais qu'on inclut des prestations complémentaires.
Oui, bien sûr.
C'est là où c'est pas facile parce qu'en fait, l'expérience peut être gâchée juste à cause d'un prestataire qui a pas honoré son contrat.
Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où justement, tu vois, on n'a pas vocation à devenir un cities ou un, tu vois, du get your guide qui propose de la prestation un peu à la volée en type marketplace. Là, l'objectif, c'est de se dire, on sélectionne très bien. Un peu, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que, on va sélectionner nos prestataires de manière ultra précise avec du test and learn et puis voir si vraiment on se prend des gros gadins, si c'est marginal ou pas. Mais globalement, tu vois, on le fait dans des destinations à forte valeur ajoutée, tu vois, comme Megève, comme la Côte Basque, etc. Et c'est plutôt bien perçu, quoi. Ça fonctionne bien. Et on peut avoir un raté où le mec s'est pas pointé, etc. Mais c'est quand même assez rare, quoi.
Ouais, c'est un peu de la stratégie finalement d'hôtels de luxe qui vont nouer leur partenariat, exactement, mais appliqué à des biens de particuliers.
Exactement. Ouais. Exactement. Et tu vois, même la manière dont aujourd'hui on diffuse nos biens, tu vois, d'autres conciergeries vont être vraiment, enfin, typique Airbnb. Tu vois, Airbnb, ils sont les côtes sont côtes, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas leur marque sur les biens. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, ben voilà, moi, je vais juste gérer le bien de Michel, tu vois, qui est dans mon giron. Je suis côte, enfin, je suis super haute, donc c'est génial. Nous, on a quand même fait ce choix de la marque. C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui, si tu vas sur Airbnb, tu ne trouveras pas bel appartement dans le 16e arrondissement de Thibault Lafourcade, tu vois. Tu trouveras Welkies appartement dans le 16e arrondissement, etc. Donc, on a toujours, si tu veux, on vient toujours en écran et en mandataire, en fait, sur le propriétaire. Et ça, la raison, c'était aussi d'asseoir une marque de qualité, d'être identifié comme tiers de confiance pour les propriétaires.
Donc, vous n'avez pas la fonction co-hôte, vous gérez en propre directement et vous prélevez donc les tarifs, enfin les prestations que vous redistribuez après à vos clients. Et comment techniquement c'est par un compte tiers, un peu ce qu'on pourrait retrouver comme chez un
séquestre,
pour un notaire.
Et tu sais, nous on travaille avec un channel manager du coup. Je sais pas si ça te parle, tu vois, c'est un outil qui permet de diffuser de manière simultanée sur X plateformes. Et derrière, on a été développé, en fait, moi, ça, c'était 2017-2018. J'ai développé avec mon équipe de l'époque, mais j'avais designé tout le PMS. Donc, c'est vraiment le property management software qui nous permet, en fait, d'avoir un ERP central où on va, à chaque fois qu'on va rentrer une réservation, si tu veux, elle est associée à un city manager qui a lui-même associé ses concierges sur les biens, qui reçoivent en temps réel sur leur application la possibilité de prendre la mission ou pas, de la remplir, de la remonter dans le système, de nous remonter les dégâts s'il y en a. Et sur la partie propriétaire, pareil, on a développé toute une application propriétaire où le propriétaire, en temps réel, bloque ses dates, a toutes ses réservations qui tombent, toute sa compta, et la possibilité de faire appel à notre service client si besoin. Et tout ça dans un ERP plutôt bien, bon, c'est moi qui l'ai fait, mais plutôt bien pensé, qui nous permettait, en fait, de scaler le business. Et c'est en ça aussi qu'on a réussi à, je divague un peu, mais tu vois, qu'on a réussi à fidéliser nos partenaires city managers, parce qu'on avait cet outil qui permettait, en fait, de passer d'un état de 15 biens à 150 biens.
Oui, bien sûr. Et ça a nécessité un agrément financier ou quelque chose pour gérer ces comptes séquestres ou...
Alors, on a un compte séquestre. La carte d'agent immobilier suffit.
OK.
Pour l'instant, en revanche, on a comme un agent immobilier, donc on a une garantie financière. Une ERC Pro et une garantie financière qui est complètement à part.
Oui. Et donc, ce que j'ai du mal à voir, c'est à partir du moment où tu mets ton bien en commercialisation
chez
Welkies, est-ce qu'il y a déjà une agence qui est affectée à la gestion de ce bien-là sur une durée donnée, ou c'est à partir du moment où il y a une location qui est déclenchée, ça envoie sur le réseau la notification d'une mission, et c'est là que ça remonte?
Non. En fait, une fois que ton annonce est tout est fait en centrale, c'est-à-dire que là, tu vois, toi, Thibaut, tu viens nous voir en disant je veux mettre mon bien sur Airbnb, sur Welkies, avec Welkies. On va créer l'annonce, envoyer un photographe professionnel, faire les photos, créer l'annonce. Donc, nous, on a une cellule et un département qui s'occupe du listing management. Donc, c'est ça, de création des annonces, de mise en ligne et de connectivité avec les différentes plateformes. Donc là, on a ensuite toute la partie revenu management, toute mon appart, il est passé au crible pour savoir à quel prix mettre et mis automatiquement sur les périodes de l'année où tu vas vouloir le commercialiser. Et une fois que ça, c'est nickel, c'est envoyé et diffusé sur les plateformes. Et à partir du moment où on commence à avoir des réservations, là, c'est envoyé dans notre système. Mais auparavant, si tu serais à Biarritz, une fois que tu signes ton mandat avec le city manager en local, la création d'annonce revient en centrale. Mais une fois que l'annonce est créée et que ça tourne, en fait, c'est ton city manager sur place qui va envoyer ses équipes pour gérer les check-in, les check-out, le ménage, etc.
Donc, tu t'assures déjà d'une prise en charge de tes partenaires sur place.
En fait, tous nos biens sont visités aujourd'hui, que ce soit par les partenaires de Paris, enfin partout. Donc on a une équipe commerciale aujourd'hui qui est plutôt une équipe, tu sais, c'est pas l'administration des ventes, mais qui fait de l'entrant beaucoup. Mmh. Et puis sur le terrain, on a des commerciaux terrain pour le coup qui eux rencontrent les propriétaires, vont voir les biens, et on a souvent des visites qui correspondent pas aux standards qu'on s'était fixé, quoi.
Ouais. On vous refuse des biens.
On refuse beaucoup de biens.
Mmh. Mmh.
C'est l'idée.
Ouais. Et j'imagine qu'avec ces partenaires justement locaux, vous avez dû un peu peut-être itérer les modèles, trouver la bonne répartition financière.
Ouais. Ah oui, ben ça c'était tout le travail de Jean Robert quand il est arrivé en 2019, et lui il a travaillé sur un contrat partenaire qui est vraiment riche, tu vois, et qui fait que on a trouvé un contrat gagnant-gagnant pour le partenaire, où lui il est incentivé sur la croissance du parc, sur la croissance du chiffre dans le parc, et sur les prestations évidemment qu'il va délivrer.
Ouais, la qualité.
La qualité, exactement. Le gros driver chez Welkis, c'est la qualité. C'est la qualité dans les biens, la qualité des séjours, et l'optimisation des taux de remplissage aussi.
Ouais.
C'est-à-dire faire gagner de l'argent à nos propriétaires, mais faire en sorte que les séjours soient aussi qualitatifs. Parce que c'est le nerf de la guerre, en fait. Si tes séjours sont pas qualitatifs, tu perds tes voyageurs, les gens ne reviennent pas, et donc t'as mis de l'argent par la fenêtre.
Ouais, c'est sûr. Donc tu me disais que effectivement, le plus gros enjeu, c'est d'asseoir vraiment ces 30 destinations où vous êtes pour s'implanter de manière saine, et avant d'envisager d'autres projets. Il y a quelque chose en particulier que vous cherchez à craquer, ou c'est juste il faut... de proche en proche, aller chercher un bien en plus, vraiment un métier d'agent immo, mais oui.
Oui, on travaille pas mal en B2B aussi, tu vois, avec les commerciaux qu'on a recrutés en région et qu'on a recruté à Paris aussi. C'était de dire, tu vois, avec le service haut de gamme qu'on assure, on est capable d'aller chercher des plus professionnels et des gens qui sont soit des foncières, soit des promoteurs, qui se disent « Ok, moi, je vais me lancer un service d'appartement avec service en local. » Mais un peu comme les hôtels, tu vois, les Accor, aujourd'hui, ils sous-traitent toute l'exploitation. C'est pas leur business. Et donc, on va travailler avec ces gens-là qui ont des contrats qui sont plus longs, forcément, parce que quand tu es sur un programme de promotion immobilière, en général, tu as un temps entre le moment où c'est commercialisé et où ça sort de terre. Mais globalement, en montagne, tu vois, ça fonctionne assez bien. Et dans les zones de location de vacances, tu vois, Nice, Côte d'Azur, Pays Basque, etc., ça, c'est des stratégies qui sont vraiment intéressantes.
Ouais. Et dans votre clientèle, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Comment ça se décompose? Est-ce que c'est essentiellement des particuliers ou... entre particuliers et professionnels, justement, tu parlais de personnes qui peuvent faire des city breaks, etc., pour venir télétravailler. On peut même penser à des séminaires, un peu des...
En fait, la répartition, elle se fait plus par zone. En zone urbaine, on va avoir beaucoup de city breaks et de professionnels.
Ouais.
Donc, du Paris, etc., tu vois. Alors que Paris est encore un petit peu spécifique, parce qu'on a aussi pas mal de touristes.
Mmh.
Mais globalement, une clientèle plus professionnel et hors des zones urbaines. Donc, c'est, tu vois, Côte Basque, Île-de-Léron, etc. On va avoir vraiment une clientèle plus loisir, qui est familiale, mais familiale CSP+.
Mmh.
Ça s'est avéré. Sur ce modèle-là.
Bah, c'est bien. En tout cas, en termes d'acquisition, ça vous permet d'être plus précis.
d'être très précis. Et en fait, ce qui est intéressant, et tu vois, c'est ce qu'on essaie de pousser avec la plateforme de réservation directe, le Club Welkis, c'est aussi qu'on se rend compte que des gens qui potentiellement nous confient leurs biens en gestion sont potentiellement des futurs voyageurs Welkis, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est hyper pertinent parce que si tu sais que ton bien est bien géré, entre guillemets, bah, tu peut t'attendre à avoir le même niveau de service, quelle que soit la destination Welkis. Et donc, nous, c'est tout l'enjeu, et tout l'enjeu un peu entrepreneurial derrière, c'est de réussir à calibrer les opérations et la qualité selon nos destinations, en tout cas être très strict sur ces normes un petit peu de qualité qu'on va retrouver partout. Sans pour autant dénaturer la location saisonnière, parce que je pense que c'est ce qui nous différencie d'un Adagio ou d'un loueur meublé classique où tu vas avoir de la déco un peu lambda, etc. Là, on va quand même chercher des biens avec une histoire, avec une localisation, avec une vue, avec une déco. Enfin, tu vois, on est quand même très, très attaché aussi à aller chercher des biens un peu d'exception et qui ont du caractère, en fait.
Ouais.
Donc, c'est aussi réussir à mesurer les demandes qui nous sont faites aussi de gens qui... Tout le monde a l'impression que son bien est très haut de gamme.
Mmh.
Donc, c'est aussi réussir à aller chercher les pépites, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bon, on a parlé effectivement de plein de diversifications un peu possibles finalement autour de cette activité principale et puis tout ce que vous pouvez mettre en place jusque-là. J'imagine que tu as quand même quelques envies en tête à long terme d'ici 10 ans de projections qui sont faites au sein de Wilkies. Où est-ce que toi, tu aimerais amener la boîte
Ben alors, je pense que la prochaine étape, ce sera l'international.
Ouais.
Et on va le faire de manière intelligente. Tu vois, nous, on a donc mon histoire actionnariale, elle est un petit peu particulière aussi. J'ai des actionnaires qui m'ont suivi depuis le début et c'est extraordinaire, tu vois, et qui m'ont aussi très vite, tu vois, poussé à être rentable. Ce qui est en fait, tu vois, on pourra reparler de ce que tu referais from scratch, etc. Mmh. Mais qui est très sain. On a une croissance qui est pas mesurée, mais si, quelque part, qui est raisonnée, en fait. C'est-à-dire qu'on fait les choses, mais on fait les choses de manière très pragmatique, avec assez peu de fonds, finalement, par rapport à nos concurrents. On a levé 3 millions versus 10 ou 12 pour les autres, tu vois. Donc, on va investir de manière très sporadique sur des endroits où on est sûr que ça va cartonner. Et donc, l'idée, c'est, tu vois, dans 10 ans, c'est bon, l'international, je pense qu'on irait à l'international, mais en montagne.
Mmh. Ah, ok.
Parce que c'est là où on a les taux de marge les plus intéressants et les croissances les plus intéressantes. Donc, la Suisse, potentiellement, d'autres pays qui sont frontaliers, mais assez proches. Et puis, sinon, rester dans le même fuseau horaire, qui est assez intéressant aussi en termes d'économie d'échelle et de destination. On a besoin, nous, de faire grandir la saison hiver, tu vois, de manière générale. L'été, on est très fort. Et l'hiver, on commence à l'être, mais on a besoin d'être meilleur sur l'hiver. Donc, l'hiver, ça peut vouloir dire, tu vois, Maurice, les destinations hiver, quoi.
Ouais.
Qui vont tourner aussi potentiellement plus ou moins toute l'année avec une saison forte, mais en tout cas, qui vont tourner toute l'année. Donc, grandes villes et destinations hiver. Et oui, bah alors ma vision, c'est qu'on devienne, tu vois, on soit identifié comme marque de location saisonnière avec service de conciergerie haut de gamme en France et potentiellement en Europe.
Mmh, ouais, bien sûr. Bon, justement, tu me fais le pont, on va y venir. Bien évidemment, maintenant qu'on a posé le décor, je vais te demander un peu ce que tu ferais si tu devais recommencer Wilkies from scratch.
Mmh.
Quels sont un peu tes enseignements sur ce que vous avez pu faire et bien les éléments que tu remettrais en place dans un premier temps, puis après on verra un peu plus tard ce que tu ne referais pas, justement.
Mmh. Bon, c'est assez marrant que tu dis ça, parce que en fait, j'ai beaucoup appris avec l'arrivée de Jean-Robert. Jean-Robert, c'est mon associé qui est entré en 2019. Jean-Robert, il a 65 ans.
Okay.
Donc, il a une expérience extraordinaire, tu vois, une carrière dans plein de domaines très différents, toujours sur la reprise d'entreprise, ou en tout cas le développement d'entreprises qui faisait un peu de chiffres, et il les a emmenés très loin, tu vois, en termes de chiffre d'affaires, sur la direction générale aussi. Et donc, lui me disait, tu vois, en fait, une boîte, c'est un réseau. C'est comment tu réussis à t'entourer des bonnes personnes.
Mmh.
Et tu vois, si je remontais une boîte demain, alors tu vois, je parle à la personne, à la Chloé qui avait 26 ans quand j'ai monté ma boîte, et j'aurais certainement pas le réseau que j'ai aujourd'hui, mais c'est réussir à tu vois, faire cette espèce de POC, là, en tout cas, cette démonstration du modèle, sans aller lever de fonds. Et en le développant suffisamment pour que, une fois qu'on va lever des fonds, on va le faire avec un modèle qui vraiment va avoir une croissance comme ça, parce que aujourd'hui, je pense que j'ai levé des fonds un petit peu trop tôt.
Ouais.
J'ai tâtonné jusqu'à pivoter, et c'est en 2019 où vraiment on a commencé à établir le modèle et à le faire rouler correctement. Donc C'est peut-être, tu vois, moi j'ai foncé un peu tête baissée, j'étais tout feu tout flamme à, tu vois, à itérer, etc., à être un peu à la one again. Je pense que aujourd'hui je le ferais sans doute différemment, avec un peu de mise de fond au départ que je n'avais pas à l'époque, mais en tout cas je me serais démerdée pour avoir un tout petit peu plus au départ, poser les bases, m'entourer des quelques personnes clés, tu vois, c'est un avocat, des personnes en IT qui sont nickel, enfin en tout cas avoir ce réseau un peu établi au début, et puis pour après, si besoin de lever des fonds, parce que ça encore c'est tu vois, lever des fonds c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est souvent signe que soit tu vas accélérer, soit t'es en mauvaise santé, quoi. Donc
ouais, c'est sûr. Bah surtout dans le service, on peut penser que vu que t'es rapidement rentable, t'en as pas forcément besoin, mais tout dépend de ta nécessité d'acquisition pour effectivement faire tourner le modèle, versus le produit, où généralement t'as rarement le choix, sauf de
Et puis l'envergure du projet que tu veux monter aussi, tu vois, et puis le temps que tu veux y consacrer, en fait c'est aussi ça, c'est que pour moi la levée de fonds, elle est aussi un super outil pour aller vite, tu vois, c'est aussi ça, et donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tu vois, on fait partie du top 5 des conciergeries en France, en tout cas identifiées comme telles, nous positionner sur le luxe accessible, mais on a été alors ça, tu vois, ça fait 9 ans, donc c'est, déjà on a tenu, et puis ça, mais en tout cas sur ce modèle là on a quand même une nécessité d'avoir un parc, tu vois, de biens en gestion qui excède les 1200 biens, quoi.
Ouais, tu mentionnes effectivement, ça fait 9 ans que vous êtes là. Tout à l'heure, tu mentionnais un concurrent qui avait levé plus de fonds que vous et qui allait un peu plus vite, mais qui a fermé au demeurant entre temps. Tu sais pourquoi ils n'ont pas réussi à pérenniser leur modèle, ou...
Ouais, je pense qu'ils, eux, je pense qu'ils étaient restés coincés sur le modèle de prestation uniquement. Tu vois, ils ne sont pas remontés sur la partie gestion et ils ne voulaient pas le faire. Et c'est pour ça, en fait. Je pense qu'ils avaient levé beaucoup. En fait, c'est l'enjeu, c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire, c'est très bien de lever beaucoup. Mais en fait, à un moment, tes actionnaires vont te dire, ah, ok, t'es gentil, mais du coup, t'en as fait quoi de mon pognac, tu vois?
Ouais.
Et donc, vont te demander des comptes. Et donc, soit t'es capable de dire, bah, ok, là, c'est bon, j'y suis, et on va commencer à verser des dividendes. Enfin, on va commencer à avoir un retour sur investissement réel, tu vois. Soit, bah, tu peux pas. Et donc, en fait, t'arrives pas à accéder à cette rentabilité, qui fait que ben un moment tu peux plus payer, tu vois, donc tu fermes.
C'est sûr, bah surtout quand tu dépends de d'autres business, t'as pas ton asset en propre, notamment la Airbnb qui sort sa fonction co-hôte ou son référencé, plein d'autres entrepreneurs.
Mais tu vois, ça c'est marrant parce que tu me l'as ressorti deux fois. C'est pas nous, c'est pas ça qui nous, tu vois, les clients qui viennent nous voir aujourd'hui sont pas des gens qui mettent leur bien sur Airbnb seul.
Ouais, pour vous, mais peut-être que pour eux c'était le cas, quoi.
Ouais, tout à fait. Pour eux.
Pour votre concurrent qui a fermé.
Oui, oui. Ben, c'est eux étaient vraiment, tu vois, sur le check-in, check-out, et je pense que ils ont rencontré le problème que j'avais, c'est-à-dire que tu sais, à un moment, en fait, tu passes toujours avec Mario qui fait ton ménage et ton check-in. Bon ben ok, mais t'as plus besoin de la plateforme, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours Mario qui va faire tes prestats, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Et donc, et c'est surtout sur des très faibles marges. Alors, on était, tu vois, le panier moyen sur la plateforme de mise en relation, et il était de 50€. Là où nous, il est de 800€, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est quand même.
Oui, il y a une différence de positionnement.
Exactement.
Forcément. Il y a d'autres éléments comme ça que tu aurais aimé connaître, savoir, ou que tu remettrais en place, ou...
Non, mais alors, je pense que, enfin, si. Tu vois, un peu les piliers pour moi, c'est l'équipe. En fait, tu sais, quand tu prépares ton pitch, là, tu vas sur tous les trucs de pitch, ils disent, faut parler de l'équipe, l'équipe, relou. Mais en fait, l'équipe, si, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une force mentale de malade, déjà, pour entreprendre, de bien s'associer. Ouais. C'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est pas facile. Pour moi, c'est aussi une relation qui se construit dans le temps. C'est être capable de, enfin, je l'applique à mon expérience, tu vois, mais moi, j'ai fait rentrer Jean-Robert quand ma première fille avait 6-8 mois. J'avais toujours été aux commandes. Ça avait pas été facile pour moi, mais nécessaire, parce qu'on était à un tournant où je sentais que j'avais eu successivement deux démissions assez importantes, tu vois, sur des postes assez importants. Et j'avais besoin de, d'avoir une, enfin, tu vois, un associé sur lequel vraiment je pouvais me reposer, qui était aussi là pour et structurer et, tu vois, avec l'expérience nécessaire pour me rassurer, avec ultra complémentaire sur les missions. En fait, moi, je suis beaucoup plus communication, marketing, digital. Lui va être beaucoup plus sur la partie financière, opération, gestion de la partie, vraiment structure, tu vois. Et c'était le combo gagnant, mais tu vois, avant ça, j'avais fait rentrer un CTO qu'on avait fait sortir avec mon actionnaire principal, fait rentrer, enfin, je t'en passe des tonnes, tu vois, et successivement mon DAF et mon CEO de l'époque, fin 2018, qui me claquent leur dème les deux en janvier 2019, tu vois.
Ouais.
Donc période très difficile et peut-être tu as un message de, je sais pas, en tout cas de la providence, mais.
Ouais, parce que justement, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à le convaincre ou que vous avez conjointement avec vos investisseurs
Il a, en fait, sa posture était pas évidente parce que c'était quelqu'un qui arrivait avec beaucoup plus d'expérience, qui a été un ancien auditeur interne, donc tu vois qu'il avait l'habitude aussi de se plonger en fait dans les boîtes et de il arrivait il connaissait rien à l'immobilier et c'est ce qui était aussi hyper appréciable en fait parce que il arrivait avec sa posture de dire bah en fait moi j'ai des méthodes tu vois j'arrive dans un milieu que je connais pas du tout je suis là pour apprendre de ce que tu vas me dire et je suis là pour essayer de t'aiguiller au maximum vers le succès en gros. Et donc ça a très vite matché, ça a tout de suite matché même en fait, parce que moi j'étais vraiment dans une phase de ma vie où j'avais, je te dis, ce nouveau-né avec ma fille qui avait à peine 7 mois, tu vois, avec mon mari évidemment, mais besoin un peu de relais, tu vois, et d'avoir un vent un peu nouveau de quelqu'un qui vient qui dit ok, on va reposer les choses à plat, on va faire les choses un petit peu différemment, voilà comment je te propose d'avancer, etc. Donc une posture, tu vois, assez humble de sa part, qui est toujours le cas d'ailleurs, super appréciable.
Et vous, tu l'as connu comment quand vous êtes
Il m'a été présenté par mon actionnaire principal.
Ouais. Ok.
Donc ça aussi, c'était, tu vois, donc je te disais en fait, il faut pas lever des fonds trop tôt, mais avec les deux actionnaires, mais en particulier mon actionnaire historique, c'est vraiment c'est un lien hyper fort en termes de liaison professionnelle, tu vois. C'est quelqu'un qui a aussi su nous aiguiller, tu vois. Et puis parfois, tu sais, quand t'as pas la tête dans le guidon, c'est aussi plus facile de donner une vision, enfin en tout cas de donner des tout n'est pas bon à prendre, mais en tout cas la rencontre avec Jean-Robert, c'était un super asset.
Ouais, j'imagine. Alors, si demain, à contrario, tu repartais pour faire un POC pour une agence de service, Wilkis,
je serais avec
autre.
J'embarquerais Jean-Robert avec moi.
Mais pour l'exercice, qu'est-ce que tu ne referais pas, à l'inverse, qui t'a un peu coûté?
Ouais, qui m'a coûté, en fait, je crois que j'étais, tu vois, je m'étais persuadée que, le fait d'avoir une marketplace versus une société de service, tu vois, parce qu'au départ, enfin, en fait, j'avais un site internet, tu vois, une marketplace qui mettait en relation des propriétaires et des concierges. Je m'étais dit, bon, ça, on va faire ça parce que c'est peut-être moins d'emmerde. Enfin, en fait, j'étais partie sur le fait de dire, ben, en fait, on va mettre en place, je vais mettre en place une marketplace parce que c'est là où je suis bonne et donc forcément, c'est là où est un peu le besoin, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'était, c'était un peu en dissonance complète, enfin c'était en dissonance avec ce que voulait le marché en fait. Tu vois, si encore une fois, ce que je te disais avant, c'était si j'avais pris un tout petit peu plus de recul peut-être, que j'aurais plus vite pivoté vers la partie servicielle quoi.
Ouais, parce que tu garantis pas la qualité, ça, la finalité.
Exactement. Et que le KPI principal de notre métier, c'est ça, c'est la qualité. Ça. Et donc je pense que tu vois, j'étais trop focus peut-être app simplification, etc. versus la promesse réelle qui était qu'aujourd'hui, en fait, dans notre business, si on veut réussir, il faut être ultra qualitatif.
Ouais, bien sûr. Et comment c'est une discussion qu'on a eue avant de commencer l'épisode, mais sur une prestation de service comme ça où tu as un peu les deux finalités à prendre en compte, à savoir le parc quel qu'il soit, immobilier En tout cas, un prestataire d'un côté et puis tu as le client à faire venir de l'autre et à sourcer. Alors, bon, bah là, en l'occurrence, tu as des plateformes comme Airbnb, mais dans ton premier cas où c'était une plateforme de mise en relation, tu n'avais pas forcément ces éléments-là. Par quoi tu commences? Comment tu arrives à faire ton POC, justement? Parce que d'un côté, il te faut A et B, finalement.
Ouais, tout à fait. Mais nous, l'histoire, c'est que, en fait, la base de propriétaire, finalement, on l'a eu de manière assez naturelle, par le référencement naturel, beaucoup.
Okay.
Donc, j'avais vachement bossé la partie référencement naturel du Google Ads aussi beaucoup, très vite. Et on était très vite référencés sur des mots-clés comme conciergerie Airbnb, tu vois.
D'accord, ouais.
Et donc, les gens nous trouvaient comme ça. Et donc, cette base de clients qui faisaient appel à moi sur des à nos services, au service des concierges Welties sur la plateforme. En fait, c'est des gens que j'ai ré-onboardés sur la partie gestion. Donc, j'avais déjà un pool de clients, tu vois, existant. Et puis après, alors, de l'acquisition, tu vois, en local, on en fait aussi pas mal. Donc, via les agences maintenant, via, donc, SEO toujours, SIA, via du parrainage aussi beaucoup. Ça fonctionne très bien. Après, on bosse classiquement avec du commercial outbound, tu vois.
Ouais.
Donc, prospection un peu à froid en local et sur Le Bon Coin, sur pas mal de plateformes qui font de la location saisonnière. On démarche pas du tout via les plateformes comme Airbnb, Booking, etc.
Ouais.
Parce que c'est considéré comme spam et les gens viennent pas à nous pour ça. Mmh. Mais je te dis, on a un référencement très fort sur la partie, sur le mot-clé conciergerie location saisonnière, en fait.
Ouais. Et maintenant que vous avez une idée très précise un peu de votre persona en fonction des différentes localités, vous avez envisagé d'aller sur la partie chaude des prospects via la création de contenu,
ouais.
Que ce soit passé par des influenceurs, soit justement, même si c'est un peu de l'outbound finalement, mais
Même... Là, 2024, c'est un des gros sujets en marketing. On travaille avec une agence d'influence parisienne, là, qui s'appelle Journée, et on va justement travailler avec eux toute cette stratégie d'influence, en fait, qui est ultra pertinente pour faire découvrir nos biens, pour faire découvrir l'univers Welties, tu vois, et justement pour attirer une clientèle qui est, à prime abord, plutôt voyageur. Parce que on est très dans l'expérientiel, très dans dans l'univers des appartements, dans les visites, etc. Mais qui, en fait, et tu vois, tu parlais de ça au départ en disant c'est hyper difficile d'amener à la fois le propriétaire et le voyageur. Mais en fait, donc on a drainé beaucoup de propriétaires jusqu'à un certain stade, tu vois. On continue en prendre en mandat, évidemment. On prend en moyenne 600 mandats par an avec un taux de churn. Mais l'idée, c'est aussi que en montrant aux futurs propriétaires le type de bien qu'on gère, en fait, ça nous amène des propriétaires, en fait. Et c'est avec ce catalogue de biens qu'on a, et c'est, tu vois, la manière dont on a construit notre site aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on met en avant notre catalogue de propriétés. Et c'est ce qui nous amène des propriétaires maintenant, tu vois. Donc, on avait un besoin, si tu veux, de volume au départ, d'aller chercher des mandats. Maintenant qu'on a ce volume-là et qu'il s'entretient, là, on a un peu un enjeu d'accélérer sur la partie voyageurs au travers de l'influence. On fait de la presse, on fait des RP, tu as du podcast.
C'est sûr. Bah, en fait, oui, là, ce que tu me dis, c'est un peu les intérêts composés. C'est sûr qu'une fois que t'as établi, c'est bien évidemment que tu capitalises sur tes forces, mais le plus dur, c'est à chaque fois.
C'est le début, quoi.
0-1, quoi.
Exactement.
Mais
tu vois, le 0-1, il s'est pas fait en un claquement de
doigts.
Ça fait quasiment 10 ans. Et puis, jusqu'en 2019, tu vois, on a amorcé la montée en gamme vraiment de manière affichée octobre 2021. Donc, tu vois, ça fait pas si longtemps. Et en fait, entre le moment où on était très mainstream, enfin, on n'était plus mainstream, et maintenant, on a aussi, on a parcouru un chemin, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Et ce genre de business, finalement, on pourrait le voir se répliquer sur différentes verticales, parce que finalement des services comme ça de qualité, de gestion, de mise en relation, on peut l'avoir pour le gardiennage d'animaux par exemple, ou autre. Qu'est-ce que toi tu verrais qui, de par ta vision des différents marchés, qui n'a pas encore été pris comme place, comme secteur, où tu pourrais voir qu'il y a une demande qui répond pas, qui n'a pas encore son offre
n'importe lequel
proposé. Ouais.
Et
qui est viable.
Ouais, qui est viable. Mais en fait, alors moi sur le, je m'intéresse quand même plus moi au voyage, à l'immobilier, etc.
Ouais.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet sur sur la rénovation, en fait, tout ce qui est rénovation, mais tu vois, les mastéos, etc., les mecs, je sais pas si ça te parle, c'est des gens qui sont venus en disant, bah, on va vous faire de l'investissement locatif, clé en main, c'est-à-dire on rénove votre bien, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est, je trouve ça hyper pertinent, mais ce serait encore plus pertinent si on arrivait à mettre une couche de rénovation énergétique dedans, tu vois, et de dire, bah, en fait, on va proposer. Ça, c'est du B2B. Tu vas me proposer aux villes, des villes comme Bordeaux, par exemple, où les mecs sont des fondus de, d'aller mettre, enfin, tu vois, d'aller faire de l'écologie. Et c'est super dans des bâtiments, mais de dire, mais en fait, nous, on va aller faire de la rénovation énergétique, puis derrière, financer par les locations qu'on va générer, tu vois.
Mmh.
Et ce sujet-là, il est, je trouve que c'est encore peu adressé. Nous, c'est des sujets qui nous intéressent aussi chez Wellkeys. On aimerait bien aller se positionner. Et dans les, et sinon, dans ce qui est pas pas fait ou pas, tu vois, le co-living par exemple, c'est des sujets ultra intéressants. Co-living senior, encore trop peu. C'est adressé par des gros promoteurs, mais t'as pas des startups vraiment. Ou alors, j'en connais pas beaucoup qui se sont mis sur ce créneau-là.
Ouais.
Parce qu'il y a un enjeu de service derrière qui est colossal, mais qui répond à une vraie demande, tu vois, sur la silver economy qui est monstrueux. Je pense que c'est des sujets. Et tu vois, chez Wellkeys, alors j'en ai pas parlé là, mais c'est intéressant d'en parler un petit peu. C'est suite au Covid, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande sur ce qu'on appelle la moyenne durée.
Mm-hmm.
La location moyenne durée, c'est-à-dire de la location supérieure à 30 nuitées. Hyper intéressant parce que ça vient pallier le fait que on soit limité aux 120 nuitées par dans les locations saisonnières, parce que en fait 120 nuitées c'est au maximum 30 par tranche de 30 nuitées, tu vois. Et donc se dire que on a un parc de location aujourd'hui qui est disponible où on pourra aller faire ce qu'on appelle du bail mobilité. Donc c'est la location à partir de 30 nuitées jusqu'à 10 ou 12 mois, et où tu as des séjours de minimum 30 nuitées, mais de maximum 10 mois, tu vois. Et en fait, ça c'est ultra intéressant parce que ça répond à des enjeux un peu de mobilité assez importante, donc soit des gens qui sont en télétravail, soit des stagiaires, soit des consultants, etc., qui est de la location classique, enfin au mois, mais qui n'existe plus avec Airbnb parce qu'on n'a plus le droit, tu vois. Et donc ça, nous, on a lancé une marque qui s'appelle Nomad by Wellkeys, qui est une marque qui est vraiment dédiée au bail mobilité. Et ça, c'est des sujets, tu vois, qui sont encore un peu nouveaux ou adressés par des très anciens de la location saisonnière, etc., et qui fonctionnent assez bien.
Et alors, parce qu'en termes de modèle économique, vous avez quand même plus intérêt à ce qu'il y ait du turnover pour refacturer des prestations plutôt que des gens qui vont rester sur du long terme, parce que j'imagine que...
Oui, alors pas forcément, parce que nous, on a en fait, plus le séjour est long, moins on paye de prestations à nos partenaires non plus. Donc en fait, nous, l'intérêt, c'est de maximiser le revenu, que ce soit du court ou du long. En fait, c'est juste que sur certaines destinations, tu ne peux plus faire de court. Donc plutôt que louer ton appart classique sur du 12 mois, donc ça veut dire ne plus jamais en bénéficier. Mais on propose, tu vois, on peut proposer cette partie moyenne durée qui te permet d'être un petit peu plus flexible et avec des clientèles qui payent plus cher aussi.
C'est sûr. Alors, tu me disais qu'effectivement, pour entreprendre, il faut une sacrée force mentale. Et puis, toi, tu as commencé...
Ténacité, surtout.
Ouais, dès 26 ans avec ce projet-là qui te tient maintenant, qui occupe toutes tes journées. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place justement pour affronter toutes ces étapes-là? Tu me parlais des différentes démissions, faire venir un DG. C'est beaucoup de choses que tu peux prendre, apprendre sur toi en tout cas, en tant que personne. Quels sont un peu tes bottes secrètes finalement? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place t'épauler là-dedans?
Moi, j'ai un parcours, déjà un terreau familial assez solide. Puis j'ai fait beaucoup de sport d'équipe, beaucoup de basket notamment, à haut niveau, avec une prépa derrière, etc. Donc, tu vois, la force mentale, en gros, elle est assez ancrée. En tout cas, j'ai jamais eu le droit dans mon éducation de commencer quelque chose sans jamais le finir. Tu vois. Et je pense que c'est encore quelque chose que j'essaie d'inculquer avec mes enfants qui me martyrisent, mais en gros, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, tu vois, et qui fait que j'y vais quand même, j'écoute, mais quand j'ai un objectif, je lâche pas avant d'avoir terminé, quoi.
Ouais.
Et notamment, tu vois, sur tous les projets, enfin, de Welkies, tu vois, qui ont abouti. Donc, je pense que c'est un peu ça. La coordination, si tu veux, de la ténacité et de la capacité à écouter aussi. Mmh. Parce que, ben, quand on doit pivoter, il faut pivoter, etc. Mais de pas lâcher, en fait. Et c'est comme ça qu'on y arrive.
Ouais.
Et en même temps, tu vas aussi être capable de dire, bah, ok, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles, en revanche, il faut lâcher.
Ouais.
Tu vois, sur des projets qu'on a pu monter et qui n'ont pas du tout fonctionné, bon, il faut lâcher l'affaire, quoi. Typique, nous, là, tu vois, pendant un moment, je te dis, cette partie uniquement prestation, on s'y accrochait assez longtemps, tu vois. Je m'étais dit, putain, j'y ai passé quasiment 4 ans, 5 ans, je ne veux pas lâcher le fait de ne proposer que de la prestation. Et en fait, bah, à un moment, je dis non, mais en fait, ouvre les yeux 2 secondes, ça rapporte que dalle. Concentre-toi sur ce qui rapporte, en fait. Et laisse tomber, tu vois, sois capable d'entendre que ça fonctionne pas. Tu as mis du cœur, mais ça n'a pas fonctionné.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est en tout cas les compétences, en tout cas les qualités d'un entrepreneur, c'est ça, c'est savoir s'entourer. Peu de personnes, mais très qualifiées. De la ténacité, mais de l'écoute aussi.
Ouais, tu me disais que pendant le Covid, vous avez envoyé les collaborateurs se former, ce qui est super important. Ça s'arrête pas uniquement à l'issue de nos études. Comment toi, tu progresses justement pour tous ces sujets aussi bien décisionnels que stratégiques, marketing et autres?
Alors, moi, j'apprends beaucoup par l'exemple. Moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup par l'exemple. Je lis beaucoup aussi, mais j'aime m'entourer en fait de personnes plus compétentes que moi, de manière générale. Et je pense que ça, c'est, en tout cas, moi, je trouve que c'est ultra pertinent d'aller chercher la compétence, tu vois, chez des gens qui sont meilleurs que toi. Donc j'ai régulièrement déjà Jean-Robert est très compétent, donc il m'apporte beaucoup sur des sujets sur lesquels je le suis beaucoup moins. C'est pas mal de formations en ligne ou même des journées de conseils, tu vois, qu'on prend sur des sujets très précis, qui coûtent pas très cher, mais qui nous permettent vraiment de nous spécialiser sur des sujets où en fait au départ on n'en avait pas besoin, et puis plus on avance, plus on se dit ok, ça il faudrait vraiment qu'on se bétonne là-dessus parce qu'on est un peu limite, quoi.
Ouais. Il y a une formation en particulier qui t'a marqué ou un séminaire que t'as pu suivre?
J'avais fait tout un séminaire sur comment engager sa communauté, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc. On n'y est pas encore. On n'est pas encore extra, mais en tout cas c'était hyper pertinent. J'avais suivi une formation de Damien, je sais pas si ça parle, de Pauline Legnaud. Tu la connais, que j'aime beaucoup suivre ce qu'elle fait, et qui était hyper pertinente sur comment engager sa communauté, comment incarner aussi sa marque en tant que femme entrepreneur, ce qui est pas, en tout cas dans mon secteur, il y a que des hommes. C'était ultra ultra pertinent.
Pauline Legnaud, la fondatrice de Gemio, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui a un super podcast, le podcast de Pauline Legnaud, qui avant était Le Gratin.
Exactement, c'est ça.
Mais ouais, génial. Bah, écoute, top. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on a pu te donner dans ta vie qui t'a vraiment marqué, que ce soit de par tes investisseurs, collaborateurs ou dans le perso, et auquel, pas qui est ta boussole, mais auquel tu peux te référer de temps en temps et que tu aimerais retransmettre à ceux qui nous écoutent?
Oui, c'est mon actionnaire principal qui me disait ça. Et il me disait toujours, il me dit, mais Chloé, tu sais qui te paye? J'ai levé des fonds auprès de lui. Bon, il dit, non, c'est pas moi qui te paye, ce sont tes clients. Et en fait, juste cette phrase-là, elle est toute simple, tu vois. Mais quelque part, elle est ultra vraie. C'est-à-dire, en tout cas, elle s'applique vraiment à mon domaine, tu vois, qui est que, mais je t'en ai parlé, mais que, en fait, c'est ton client propriétaire, ton client voyageur qui te paye. Et donc, tu as un, tu as besoin d'avoir, il faut que la qualité drive ta vie, en fait.
Ouais.
Et il faut que tout ce que tu fasses, tout ce que tu fais, soit orienté vers la satisfaction du voyageur et du client propriétaire.
Ouais.
C'est aussi, tu vois, j'en ai peut-être pas parlé suffisamment quand tu me disais from scratch, qu'est-ce que tu ferais? Mais je crois qu'en fait, il faut vraiment soigner tes premiers clients.
Mmh.
Et que ta pub, elle se fait un peu toute seule derrière, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et j'ai peut-être, tu vois, ça, c'est un sujet sur lequel j'ai voulu faire du volume beaucoup. Et donc, on est revenu sur des sujets de qualité par la suite. Mais c'est vraiment le béaba, mais c'est ultra important, en fait. C'est de garder en tête que c'est les clients qui te payent, quoi.
Ouais, c'est la dualité de vouloir aller vite pour gagner des parts, mais en même temps, toujours proposer la qualité. Ouais.
Exactement.
Chloé, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre? Est-ce que sur LinkedIn, t'es
sur
présente?
LinkedIn, ouais. Super, sur LinkedIn. On est assez présent sur les salons dédiés à l'immobilier et la location saisonnière, mais sur LinkedIn avec plaisir.
Ok, génial. Bah, écoute, je mettrai les liens dans la description de Wellkiss et puis de ton profil LinkedIn.
Impeccable.
Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. C'était vraiment top.
Avec plaisir.
Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'épisode et d'écrire à Chloé pour lui dire ce que vous en avez pensé et la remercier le cas échéant. Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut !